La mission de Mohammed au plan théologique. La biographie traditionnelle de Mohammed comporte deux tomes de 600 pages dans la traduction en français. Tous les musulmans ne connaissent pas forcément tous les détails de sa vie, mais la plupart sont au courant des événements que l'auteur a mentionnés dans les sections précédentes de ce chapitre. Cette biographie parle de la contribution de Mohammed aux origines de l'islam. Cependant, il ne suffit pas de dire ce que Mohammed a fait ou ce que les musulmans croient qu'il a fait pour trouver une réponse à toutes les questions que l'on peut se poser sur la contribution spécifique du prophète Mohammed au plan théologique, par opposition à son rôle historique. Cette section aborde la question du sens et de la contribution de Mohammed du point de vue théologique. Puis, dans une autre section, nous verrons la place de Mohammed dans la dévotion populaire musulmane. Fondée sur le Coran, l'islam souligne trois fonctions principales de Mohammed. Mohammed est prophète, Nabi. Selon une tradition rapportée par l'historien musulman Tabari, 839-923, Dieu a envoyé jusqu'à 124 000 prophètes qui sont tous venus pour prévenir les hommes des conséquences de leurs péchés et pour les ramener à l'adoration du seul Dieu. Le Coran mentionne environ 28 prophètes, dont la plupart sont des personnages de la Bible. Cinq prophètes ont une place particulière. Mohammed, l'aimé de Dieu, Abraham, l'ami de Dieu, Moïse, Jésus et Noé. Mohammed est messager, rasoul, de Dieu, comme il est dit dans la deuxième moitié de la profession de foi musulmane, la Shahada, chapitre 6. Les messagers viennent non seulement pour avertir les personnes, mais pour apporter également une révélation nouvelle ou corrigée émanant de Dieu. Tout comme l'ont fait Moïse avec la loi, David avec les psaumes et Jésus avec les évangiles. Tous les messagers sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. Mohammed est le sceau des prophètes, Khatam al-Anbiya. Cette expression signifie pour les musulmans que Mohammed est le dernier prophète, l'ultime messager de la révélation. Pourquoi est-il le tout dernier ? Parce qu'il délivre la totalité de la révélation, si bien qu'il n'y a plus besoin d'envoyer d'autres prophètes. Dans l'islam sunnite, à ses débuts, le calife, successeur du prophète de Dieu, assume le rôle de Mohammed en tant que chef politique de la communauté musulmane, mais n'a pas reçu en partage l'autorité religieuse de Mohammed en tant que prophète et messager. Comment comparer le rôle de Mohammed dans l'islam avec celui de Jésus dans le christianisme ou de Moïse dans le judaïsme? En résumé, on pourrait dire d'un point de vue musulman que le rôle de Jésus et celui de Mohammed diffèrent considérablement, tandis que celui de Mohammed et celui de Moïse sont davantage comparables. Naturellement, l'islam considère chacun des trois comme un prophète. Pour les chrétiens, Jésus est le Verbe, la parole, de Dieu incarné, c'est-à-dire qui s'est fait homme. Pour les musulmans, Mohammed est seulement un homme. C'est le Coran qui est le Verbe éternel de Dieu dans l'islam. Mohammed est le vecteur, le porteur de cette parole de vérité, tout comme la Bible chrétienne témoigne que Jésus est le Verbe de Dieu pour les chrétiens. Ainsi, d'un point de vue théologique, le Coran occupe le même rôle dans l'islam que Jésus dans le christianisme. Et Mohammed occupe dans l'islam le même rôle que la Bible dans le christianisme. Pour les chrétiens, Jésus est une figure divine de sauveur. Pour les musulmans, Mohammed n'est pas un sauveur. Le Coran décrit Moïse de façon à souligner les rôles parallèles de Mohammed et de Moïse. Dans une certaine mesure, Mohammed est un nouveau Moïse, mais plus grand que Moïse. Voici ce que Mohammed et Moïse ont en commun. Prophète moraliste, mettant l'accent sur les bonnes mœurs. prophète exemplaire, un modèle à imiter, législateur, chef rituel, juge-arbitre, chef politique de la communauté, chef politique de la communauté, chef militaire du peuple de Dieu, médiateur entre Dieu et les hommes, mystique, celui qui a une rencontre ou une vision unique et personnelle de Dieu et qui devient un modèle à suivre pour d'autres mystiques. La sourate 33-21 indique « Vous avez en la personne du messager de Dieu, Mohammed, un beau modèle. » Autrefois, les chrétiens méditaient sur un petit livre intitulé « L'imitation de Jésus-Christ » et essayaient d'imiter le Christ. Mais on peut dire que l'imitation de Mohammed est encore plus importante chez les musulmans. Les musulmans obéissent parce qu'ils acceptent Mohammed comme étant choisi par Dieu, Mustapha, une des épithètes les plus fréquentes de Mohammed. Obéir signifie imiter les actions du prophète, observer les mots du prophète et accepter comme permis ce qui a reçu son approbation. Toutes les actions de Mohammed sont dignes d'être imitées. Ce qu'il a mangé, comment il s'est nettoyé les dents, comment il s'est peigné la barbe, et son amour des enfants et des chats. L'imitation du prophète crée un phénomène étonnant d'habitudes culturelles ancrées dans la vie quotidienne et qui sont communes à des cultures très différentes, ce qui explique pourquoi un musulman est souvent à l'aise dans une culture musulmane différente de celle de son pays d'origine. À la différence d'Élie et de Jésus dans la Bible, Mohammed n'a jamais fait de miracle. Le Coran ne lui en attribue pas. Les gens de la Mecque lui ont demandé de faire des miracles afin de justifier ses prédications. Il a refusé, disant que le Coran en lui-même était son seul miracle, et même plutôt le miracle de Dieu, puisqu'il s'est contenté de redire les paroles qui lui avaient été révélées. Néanmoins, la foi populaire a toujours besoin de miracles. Un certain nombre sont inscrits dans la biographie officielle de Mohammed, rédigée au 8e siècle. Et plus tard, certains poètes loueront Mohammed pour leur avoir inspiré de façon miraculeuse les vers qu'ils ont écrits. Plusieurs de ces miracles sont cités avec versets du Coran à l'appui, même si ces versets sont habituellement compris avec un sens différent. Au rang de ces miracles figurent l'ouverture du torse de Mohammed petit enfant, un récit où la lune se divise en deux, l'heure est apparue et la lune s'est dédoublée, sourate 54-1, le voyage nocturne vers Jérusalem et son voyage à travers les cieux, sourate 17-1. Texte sacré. Il existe encore beaucoup d'autres miracles que l'on raconte sur Mohammed. Voici l'un des préférés de l'auteur. Pour prêcher, Mohammed avait l'habitude de s'appuyer contre le tronc d'un palmier. On construisit pour lui une tribune afin qu'il puisse prêcher plus confortablement. C'est alors que le tronc du palmier se mit à soupirer et à pleurer, parce qu'il n'avait plus droit au contact de la main du prophète. Mohammed, pris de pitié, se fit apporter le palmier. Ce miracle est rapporté entre autres par Abu Nuaym, 948-1038, mystique soufi et historien de hadith. La théologie musulmane définit dès ses débuts les attributs d'un prophète. Il doit être véridique, intelligent, honnête et proclamer la parole de Dieu. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit sans péché, isma. Selon certains passages du Coran, on pourrait dire que Mohammed a pu commettre des péchés. N'étiez-vous pas égaré et ne vous a-t-il pas guidé ? Dit Dieu à Mohammed dans la sourate 93. Pourquoi Mohammed devrait-il demander le pardon s'il est sans péché? Les premiers théologiens musulmans ont réfléchi à toutes ces considérations et certains ont admis que Mohammed a pu avoir commis des méfaits mineurs. Il était indemne de péchés graves et intentionnels. Néanmoins, la vision musulmane de ces choses est que Mohammed était sans péché. Bien que simplement humain, il n'en était pas moins un homme parfait. Selon la sourate 2:255, Mohammed est le premier à intercéder pour les péchés des hommes au jugement dernier. Référez-vous au chapitre 5. Il agit comme leur protecteur auprès de Dieu, et autant comme interprète que comme défenseur. Les musulmans sur terre invoquent également Mohammed dans leurs prières. Certains ordres soufis emploient des formules d'intercession comme litanie dans leur cérémonie de dhikr, souvenir. Les poètes exploitent eux aussi le thème de Mohammed comme intercesseur. L'idée est que Mohammed puisse agir en faveur des bons croyants lorsqu'ils se présenteront devant Dieu. L'intercession de Mohammed est étroitement liée à l'utilisation de la formule de la bénédiction attachée à Mohammed. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui. Cette formule est déclamée de diverses façons, tandis que les croyants la mentionnent chaque fois que le nom du prophète est évoqué, soit à l'oral, paix et bénédiction soient sur lui, soit à l'écrit, PBSL. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô croyants, vous aussi bénissez-le, dit la sourate 33:56.